yonder is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
Notre invité a tous les talents musicaux. Il fait des compilations de chansons avec des noms de voitures, comme l'avait fait Robert Charlebois avec Dolores. Il fait des compilations d'aliments, de fromages. Il joue de la flûte avec son nez. Bref, il est spectaculaire. Arnaud Soli, notre invité aujourd'hui. Bonjour Arnaud.
Bonjour Paul.
Vous connaissez Madame Parisien?
Oui, oui, on s'est entretenu déjà au téléphone et je suis content de te rencontrer en personne.
Mais c'est vrai que tu as tous les talents musicaux. Est-ce que tu as baigné dans cette atmosphère quand tu étais jeune?
Oui, mais mes parents sont musiciens, mes grands-parents sont musiciens. Je suis issu de 3 générations de musiciens classiques, jazz, pop. Donc, il y a cette espèce d'environnement musical-là, il est complètement dans mon ADN. Je suis né dans la musique, j'ai étudié la musique. Tout me prédestinait à être un musicien, mais j'ai bifurqué à la dernière seconde. Peut-être par peur de... J'aimais pas la pression de la musique classique, un peu le côté peut-être sérieux, conservateur, austère. Ça me faisait peur, ça me stressait. Puis moi, ce que j'aimais, c'est rire. Mais il y a manière de rire avec la musique.
Absolument, même avec la musique classique. L'un des plus grands humoristes était Victor Borge, ou Victor Borge, comme les Américains l'appellent, qui s'installait. Il était un grand pianiste classique, mais il transformait ses concerts en des numéros d'humour complètement loufoques.
Oui.
Victor Borge.
Alors, j'imagine que ça a créé un certain scandale chez vous, non?
Non, en fait, je redoutais le moment où je devais annoncer à mes parents que je ne serais pas un musicien, mon espèce de coming out, comme j'appelle. Mais non seulement il n'y a pas eu de scandale, mais mes parents s'en doutaient. Alors, c'était une peur que je m'étais créée moi-même, la peur de décevoir ou de briser une espèce de tradition. Parce que littéralement, tout le monde, même mon frère, mes cousins, cousines, fait de la musique. Dans la vie professionnellement.
Dans ta meilleure carte de visite, Arnaud, ce sont tes vidéos sur Internet. Mais tu consacres la plupart de ton temps, de tes énergies à l'humour scénique.
Ouais.
Comme par exemple, le 27 juin prochain, Thérèse, à l'Olympia de Montréal, dans le cadre du festival Grand Montréal Comique.
Ouais.
Mais tes vidéos, là, sont devenues vraiment incontournables.
Ben moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avant même de décider que j'allais faire de l'humour dans la vie, de vraiment m'aligner dans cette direction-là. J'utilisais Internet comme une espèce de médium pour propager des blagues, des vidéos, des photomontages. J'aimais beaucoup l'instantanéité du web, la manière de rejoindre, mais je faisais ça pour faire rire mes amis. T'sais. J'avais aucune visée commerciale, de carrière ou quoi que ce soit. Vraiment, je trouvais que c'était le fun. J'avais une idée, je la faisais, je la mettais sur les réseaux sociaux, elle se propageait. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à faire de l'humour sur scène, je me suis dit que Internet serait une bonne manière de me faire connaître de plusieurs personnes parce que c'est pas facile pour un jeune humoriste d'entrer dans les médias traditionnels, la radio, la télévision. C'est pas facile de faire sa place. Donc l'Internet, c'est un peu... C'est un peu un marché fou, mais si tu réussis à trouver une niche, un filon, ben tu peux éclore là-dedans puis ensuite te faire connaître.
Mais c'est ça, c'est une nouvelle façon, c'est-à-dire tu n'as plus besoin de passer par le traditionnel, c'est-à-dire tu peux aller là et tout à coup ça éclate. Tout à coup c'est viral, à coup c'est pour une raison.
Tu sais, à une époque en humour au Québec, je pense qu'il y avait un chemin relativement tracé qui était généralement tu faisais l'école de l'humour et là tu faisais un gala juste pour rire. Et là, si ça marchait, ben là, t'étais produit, puis tu partais pour 1000 shows. Tu faisais la France, le Québec. Et là, il y avait comme pas d'entre-deux. C'était, tu faisais un peu le cheminement traditionnel. Et là, si ça explosait, ben tous les projecteurs étaient sur toi. Mais maintenant, les gens, ils pratiquent ce métier-là sur une base régulière. Il y a des gens qui jouent tous les soirs dans les comedy clubs ou... Mm-hmm. Ben comme le Bordel ou le Terminal à Montréal, il commence à avoir de plus en plus de salles 100% dédiées à ça. Et ça fait que le niveau de qualité du stand-up, de l'humour sur scène, n'a jamais été aussi fort, à mon avis, au Québec. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artisans de l'humour que le grand public ne connaît même pas, mais qui gagnent sa vie avec l'humour, qui pratiquent son art chaque soir. Et pour moi, jeune humoriste, c'est un extrêmement motivant parce que la qualité est très élevée. Ça me force à me dépasser, mais l'autre côté de ça, c'est qu'on est beaucoup et il faut faire sa place.
Mais c'est une bonne façon de voir les choses parce que Thérèse et moi, on a reçu tellement d'humoristes depuis janvier. Des grands humoristes déjà établis, Martin Matt, on a abordé la question, vous rappeler, Thérèse, avec qui est venu nous dire il n'y a jamais eu autant de compétition que maintenant.
Ah oui, effectivement. Ouais. Louis-José Houde nous en a parlé.
Louis-José Houde nous a dit ça.
Mais la compétition, toi, ça te fait quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens en compétition comme humoriste aussi? Chacun a sa niche. Toi, tu as une niche particulière.
Oui, mais c'est particulier. J'utilise le mot compétition parce que c'est statistique. Hein. Il y a un marché qui est au Québec, un nombre X de personnes qui consomment de l'humour. Et il y a un nombre d'humoristes qui grossit toujours et plus rapidement que le bassin de population. Donc, je pense que cette année, il y a peut-être 30 one-man show, one-woman show en salle dans le réseau diffuseur officiel. C'est beaucoup. À une époque, il y en avait 7-8. Donc oui, il y a réellement une compétition. Mais ça, c'est sur papier. Mais moi, mon attitude face à ça, c'est de le voir d'une manière inspirante puis de le voir d'une manière à me dépasser parce que j'y peux rien. Moi, je ne contrôle pas ce que les autres font. Ce que je peux faire, par contre, c'est travailler à être plus fort et plus original.
Très original. D'ailleurs, tu as fait ta niche. Je vais utiliser le terme anglais. Tu as, comme beaucoup d'humoristes, ton branding. Mm-hmm. Le branding, là, c'est ton empreinte, notamment parce que tu joues de la flûte avec ton nez. Alors, ça prend beaucoup de talent, ça prend des talents de musicien et ça prend de très bons sinus. Oui,
moi, absolument. Je pense surtout à tes parents qui sont musiciens et qui ont vu ce numéro-là.
Oui, c'est sûr que, disons que la première année, j'étais assis à la table des enfants à Noël.
Est-ce que tu étais celui qui faisait rigoler tout le monde dans la maison?
Mais honnêtement, j'ai une famille avec... des deux côtés, du côté de mon père et de ma mère, c'est des gens avec beaucoup d'esprit. On aime rire. Je suis pas tout seul. C'est pas comme si j'étais un clown dans un milieu de gens austères et froids. C'est des gens curieux, ouverts, rieurs. Donc, je tiens pas ça de nulle part. Mais oui, j'ai toujours été un farceur. Ça, c'est sûr que c'est dans ma personnalité. Sinon, je ferais pas ça.
À l'école, par exemple?
À l'école, j'étais très, très tannant, très... Je voulais beaucoup faire rire les gens. Moi, c'était tu sais, j'ai jamais été sportif. J'ai jamais été quelqu'un de super populaire physiquement. J'étais pas populaire avec les filles, tout ça. Donc, l'humour, ça a vraiment été ma manière de me faire accepter. Je pense que si tu t'en parles à beaucoup d'humoristes, c'est une tangente de vraiment créer cette carapace-là humoristique pour se protéger parce que... Ben, vous savez, l'école, hein, c'est quand même... Il faut faire sa place.
Rire, c'est ton moteur.
C'est mon moteur. Puis dans n'importe quelle situation, moi, s'il y a un malaise, s'il y a de la tristesse, le rire, c'est mon premier réflexe. Avant même de vivre l'émotion, on dirait que ça désamorce les choses. Mais ensuite, tu te rends compte, le rire, c'est bon pour passer des messages, pour créer des liens. Ça a plein de qualités.
Tu as franchi une grande étape à la fin mai. Tu t'es marié. Mm-hmm. Et on a vu des images, mais d'un romantisme absolu, des images qui ont fait réagir beaucoup de gens. Non seulement la communauté des humoristes ont dit « On,
oui.
Arnaud ». C'est vrai, c'est un mariage, Thérèse, hyper romantique. D'ailleurs, est-ce que ça tient toujours? C'était fin mai, vous êtes toujours ensemble?
Oui, ça marche. Regardez, j'ai la bague ici. C'est pour la vie, on touche du bois.
Ça faisait quand même 6-7 ans que vous étiez ensemble.
Ça fait 8 ans que je suis avec ma femme. Je m'habitue à dire ma femme.
Arnaud, il était temps,
mais,
là!
Mais honnêtement, si je peux me permettre, c'est pas... je me rencontre autour de moi, c'est pas un rituel que les jeunes pratiquent beaucoup, le mariage. Moi, j'ai quelque chose d'un peu... j'aime beaucoup la cérémonie, j'aime le rituel dans la vie. Je suis quelqu'un qui aime les traditions. Je trouve que le mariage, c'est la plus belle chose. Dire à quelqu'un qu'on l'aime devant ses proches, puis immortaliser ça par les mots, par l'acte, par l'objet, par... Bref, plus belle journée de ma vie.
Et quand tu t'es exprimé cette journée-là, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. » Tu as dit que c'était la plus belle journée
de ta vie. Et je le pense vraiment. C'était incroyable. Tant d'amour, Et tu te rends compte que tu es bien entouré, la famille, les amis. Puis ça nous ramène aux choses. L'humour, c'est un métier d'anxiété. On est travailleurs autonomes. Ouais. On ne sait pas si on va avoir du boulot demain. On est toujours dans l'instant présent. Mais là, c'est une manière de graver quelque chose dans l'éternité, on le souhaite.
On va faire une courte pause et on vous revient avec notre invité, Arnaud Soli. Je rappelle qu'il sera notamment en spectacle le 27 juin prochain à l'Olympia de Montréal dans le cadre du festival Grand Montréal Comique. Vous êtes absolument incroyable. C'est une flûte nasale.
T'as l'image. Tu ne peux pas, tu l'entends, ouais. Puis tu as une image.
Ouais, ouais. Arnaud Soli est notre invité, celui qui est capable de vous interpréter cet air un peu andin avec son nez. Ça n'a pas de sens. Oh, vraiment. Il sera, je dis à l'Olympia, mais Thérèse, vous avez ajouté une date importante.
Ben, le 16 juillet, il sera à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts parce que Catherine Levac t'a invité à sa carte blanche dans le cadre de Juste pour rire.
J'ai très hâte. C'est la Place des Arts, une des plus belles salles au Québec.
C'est une grande salle.
Immense. C'est beau. Puis le côté aussi, j'ai... Mes parents ont fait de la musique classique dans cette salle, alors enfin, ils vont reconnaître leur enfant comme...
Ah, ben ça, c'est magnifique, ça! Mais c'est très beau!
Comme un des leurs, mais c'est une belle salle, je suis content de jouer là.
C'est très beau. Arnaud est venu avec son carnet.
Oui.
C'est un zap...
Ouais, un zapbook.
Un zapbook. Et Thérèse a noté une similitude entre Arnaud Soli et moi-même.
Oui, vous avez ça en commun. Vous promenez avec un carnet, prendre des notes. Je te voyais prendre des notes même pendant l'entrevue. Tu prends des notes tout le temps.
Ben c'est parce que...
Avant l'entrevue même, tu prenais des notes.
Oui, tout le temps.
J'ai cru remarquer, parce que tu as feuilleté une page tantôt, que tu avais des dessins là-dedans,
ouais.
Que tu avais des toutes sortes d'affaires. Tu as toujours ça avec toi?
Oui, ben c'est...
Parce que Paul Oud aussi a toujours ça.
On en parlait un peu avant d'entrer en onde, mais tu sais, moi, je suis bien attaché à l'objet papier, l'objet physique, puis ben avec le métier qu'on a, s'il y a une idée qui passe, il faut que tu la notes. Mais je sais que je peux la noter sur mon téléphone, mais j'aime avoir le cahier, puis quand t'écris, on dirait que t'as moins peur de rayer. Puis je trouve que les idées sortent bien avec un papier puis un crayon. Il y a quelque chose de...
Et tu les conserves?
Je les conserve tous. J'ai une armoire à moitié pleine de juste jokes, dessins. Et c'est le fun d'y retourner, de relire ça. Tu vois un peu dans l'état que t'étais. Il y a des idées aussi que t'as oubliées qui reviennent, des souvenirs. Moi, je trouve ça super.
Il y a des gens qui ont leur vie en film et en photo. Toi, tu l'as vraiment en mots et en images dessinées.
Si un jour tu publies, ça serait très beau, les carnets d'Arnaud.
Mais on garde la porte ouverte.
Oui. D'ailleurs, parlant de ton nom, je trouve que tu disais que tu n'étais pas nécessairement sportif lorsque tu étais à l'école ou étudiant. Regarde, il glisse des yeux.
Mais
il
pense je ne sais, pas où, que... non, je sais non, pas où est-ce que tu t'en vas.
Ben, je vais te le dire où je m'en vais. Moi... Je trouve que quand j'ai entendu ton nom pour la première fois, j'avais l'impression que tu étais un grand joueur de soccer. Le défenseur droit de l'Impact, Arnaud Soli.
Ah, ça fait un peu soccer. Ça fait
vraiment.
Escrime, peut-être?
Aussi. Médaillé.
Un sport européen.
Médaillé d'or en fleuret ou à l'épée, oui. Arnaud Soli.
Ça, j'y crois. Épée, soccer.
Tu sais, t'as pas un nom.
Mais j'ai pas un nom de curling. Là.
Ni de hockey.
Non.
T'sais, tu ne peux pas donner une grosse mise en échec quand tu t'appelles Arnaud Soli, mais tu peux faire un but extraordinaire au soccer quand tu es un joueur d'avant ou un défenseur.
Moi, le hockey, je ne peux pas jouer deux. Je peux jouer deux flûtes, mais je ne peux pas jouer deux.
Est-ce que tu es quelqu'un qui suit beaucoup, beaucoup l'actualité sportive?
Ouais. Moi, j'adore le sport.
Est-ce que
le matin, là, je lis tout le plus possible les nouvelles, le sport. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. C'est normal aussi avec la
mais
job qu'on
fait,
a. C'est impossible pour un humoriste de ne pas être au diapason de la société. C'est ça notre travail, c'est de faire un miroir un peu à ce qui se passe, les idéologies, les courants, la politique. Même si tu n'es pas nécessairement un humoriste engagé, il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe. Donc, les nouvelles, le sport, je commence ma journée avec ça.
On a posé la question à tous les humoristes et toutes les humoristes qui sont venus ici, Thérèse et moi. Est-ce que tu trouves qu'on est dans un monde où on doit faire attention quand on est humoriste, qu'il y a des sujets qui sont plus délicats, plus sensibles que d'autres, qui ont fait que le Québec, là, se retrouve dans une situation où il faut être prudent?
Bien, écoutez, moi, je pense que... Moi, j'ai jamais vécu de censure. J'ai jamais senti que je pouvais pas dire quelque chose. Par contre, plus tu as une grande tribune et plus tes paroles s'exposent à rencontrer des gens qui pourraient être heurtés. Ça va de soi, puis il faut être prêt à le vivre. Mais si tu assumes ce que tu dis, si un humoriste dit des propos qui n'ont vraiment aucun sens, il va se le faire dire. C'est à lui d'assumer la responsabilité de ses propos. Oui, il y a quand même une certaine rectitude politique. Je pense qu'il y a des tabous, il y a des fragilités. On est vraiment dans une époque où est-ce que toutes les choses sont en train de se redéfinir, autant au niveau du genre que de la sexualité, que de l'ethnicité. Donc oui, bien sûr, il y a des zones fragiles, mais si on assume nos propos et puis qu'on est curieux, ouvert et dans le dialogue, je pense qu'on est quand même dans une démocratie et on est chanceux de pouvoir s'exprimer.
Là, ton spectacle est en rodage, puis évidemment, tu vas jusqu'à 2020, puis tu vas nous arriver avec une première à Montréal en 2020.
Au printemps, idéalement. Donc oui, je pars en rodage cet été, cet automne, arnaudsoli.com, plein de dates à travers le Québec.
Arnaud, continue d'être en amour et continue d'écrire dans tes carnets.
Merci.
C'est ce qui fait ton charme.
Merci,
Paul. Pour une première rencontre.
Merci, Thérèse.
Merci, Arnaud. On a passé une belle demi-heure avec toi. Au revoir, tout le monde. On sera là demain à 15h.